Amos chapitre 9, verset 9. Car voici, je vais donner mes ordres, et je secourrai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme le blé est secoué dans le crible, sans qu'il en tombe un grain à terre. Bonjour à tous, frères et sœurs. Nous poursuivons notre méditation sur cette trajectoire de la pluie de l'arrière-saison, de la moisson. Et aujourd'hui, ce qui est aussi lié à tout cela, le criblage. Parce que nous avons vu dans notre étude de la moisson, sabbat dernier, dans notre dernière méditation, que la moisson que Jésus a annoncée, qui était la fin du monde, comme nous avons lu dans Matthieu chapitre 13, nous avons conclu, à travers notre lecture simple de la parole de Dieu, que cette fin du monde que Jésus annonçait, et qui était elle-même la moisson, a commencé, selon les paroles de Daniel chapitre 8, verset 14, et aussi les versets suivants, en 1844. Et nous savons aussi également, en tant qu'étudiants de la prophétie, des prophéties bibliques, que le temps de la fin a commencé en 1798, lorsque le général Berthier, sous les ordres de Napoléon, a pris captif le pape et a blessé cette bête de Apocalypse chapitre 13, et a mis fin à cette suprématie papale des 1260 jours prophétiques, à savoir 1260 ans, qui ont pris fin à cette date, à partir de laquelle l'Église catholique romaine n'avait plus cette suprématie qu'elle avait eue pendant ce qu'ils appellent en anglais « the Dark Ages » et qu'on appelle en français « le Moyen-Âge », mais qui est plus véritablement appelé par cette expression anglophone des siècles obscurs. Car c'était ce que c'était, cette période de notre terre pendant laquelle la papauté a eu la suprématie et a fait souffrir et mourir les saints. Et donc, frères et sœurs, dans le contexte de la moisson qui a commencé en 1844, avec le début de la purification du sanctuaire céleste, la parole de Dieu nous révèle davantage d'éléments sur la séparation que Dieu opère entre le blé et l'ivraie en vue de la récolte finale par Jésus à son second avènement pour les greniers célestes. C'est ce que nous avions vu, vous vous rappellerez, dans notre étude précédente, c'est que lorsque Jésus vient, dans les derniers versets de Apocalypse chapitre 14, il vient non pas pour opérer, pour accomplir cette moisson, mais pour bel et bien faire comme faisaient d'antan les agriculteurs, à savoir prendre ces fagots qui avaient été érigés, ces faisceaux qui avaient été érigés, ces faisceaux de blé, et les monter sur sa charrette. Et en l'occurrence, l'esprit de prophétie nous dit que la charrette de Jésus-Christ sera ni plus ni moins qu'une nuée dont le fondement ressemble à un nuage sombre, mais la partie haute est surplombée par l'arc-en-ciel de l'alliance que Dieu a faite avec l'homme pécheur. Et donc il viendra comme cela, avec une faucille dans la main, couronné pour être glorifié et couronné roi par son propre peuple, et il viendra accompagné des anges avec son gigantesque cortège. Et donc il ne vient pas moissonner, nous avons vu que ce sont les anges bel et bien qui sont les moissonneurs, comme Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 13, je crois que c'est verset 39. La moisson, c'est la fin du monde, et les anges sont les moissonneurs. Mais Dieu a donné davantage de détails sur cette séparation que nous avons vue être opérée et accomplie par le troisième ange. Je réitère cela et je rafraîchis notre mémoire sur ces paroles que nous avions contemplées la dernière fois et qui sont d'une importance capitale. Et comme je l'avais dit la dernière fois, une importance vitale. Cela fait partie des révélations vitales que Dieu nous donne, pas un homme, mais que Dieu nous donne au sujet de la moisson. Je vous le relis ici dans Premiers Écrits, à la page 118 et au paragraphe 1. Je vis alors le troisième ange, nous dit la messagère du Seigneur. Je vis alors le troisième ange. Que vit-elle ? Mon ange accompagnateur me dit, à son sujet, au sujet du troisième ange, son œuvre est redoutable. Sa mission est solennelle. Il est l'ange qui doit séparer le bon grain de l'ivraie et sceller ou lier les gerbes pour le grenier céleste. Ces choses devraient occuper tout l'esprit, retenir toute l'attention. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nous avons conclu par cela la dernière fois. À savoir que ces choses que nous avons contemplées sur la moisson ne sont pas à prendre ou à laisser, ne sont pas un détail supplémentaire, optionnel, une chose que l'on peut se permettre d'oublier. L'esprit de prophétie nous dit, d'ailleurs, plus encore, l'ange a dit à la messagère du Seigneur que ces choses-là, au sujet de la mission solennelle et de l'œuvre redoutable du troisième ange, qui doit séparer le bon grain de l'ivraie et sceller ou lier les gerbes pour le grenier céleste, ces choses-là devraient occuper tout l'esprit et retenir toute l'attention. Et donc, lorsque vous arrivez, frères et sœurs, au troisième ange tel qu'il est réellement, dans ce qu'il contient, dans ce qu'il implique, dans ce qu'il est en train d'accomplir, eh bien, vous réalisez que vous ne connaissiez pas réellement ce qu'est le message des trois anges, qui est lui-même couronné par le message qui n'ira qu'en enflant, en s'amplifiant jusqu'à la fin du temps, à savoir le message du troisième ange. Est-ce que nous avons fait cela? Est-ce que nous avons compris que réellement ce troisième ange a pour œuvre de séparer? Parce que si nous attendions impatiemment ou sans patience ou de manière négligente ou de manière nonchalante, ou de manière zélée, mais sans intelligence, si nous attendions la moisson pour qu'il y ait une séparation, mais que nous persistions dans notre communion avec des frères et des sœurs qui n'ont pas de relation vivante avec Dieu, mais qui ont une apparence de la piété tout en ayant renié la force, si nous attendions cela, la moisson pour mettre une fin à cela, alors, j'aimerais vous suggérer que nous n'avions pas compris l'œuvre du troisième ange. Et donc, c'est un choc pour le système, pour notre corps et notre âme tout entier, de réaliser qu'en réalité, nous n'étions qu'adventistes que dans notre imagination. Et je dis ça, frères et sœurs, non pas pour insulter, mais pour témoigner de l'expérience que j'ai moi-même faite quand je suis arrivé à ce message-là. Et pour qu'aujourd'hui je puisse vous témoigner ces choses, cela m'a fallu plusieurs années pour pouvoir arriver aux prises avec ce sujet, qui est d'une telle importance que Satan veut absolument miner notre contemplation de ces choses, sans parler de notre pratique de ces choses. Laissez-moi le relire. Son œuvre est redoutable. Sa mission est solennelle. Et donc vous pourriez être enclin à vous dire, mais si sa mission est solennelle et ce que son œuvre est redoutable, ne nous incombe-t-il pas de nous en enquérir, de savoir De quoi s'agit-il de nous engager dans cette œuvre-là? Eh bien, ces pensées-là sont ensuite confirmées par l'écriture même, noir sur blanc, qui nous dit que ces choses-là, de cette séparation, de cette activité de ce troisième ange, devraient occuper tout l'esprit, retenir toute l'attention. À savoir, l'œuvre que le troisième ange accomplit réellement, telle que c'est écrit, ces choses-là devraient occuper tout notre esprit. Donc notre esprit devrait être sollicité par la réalité de ce qui est déclaré au sujet de l'activité du troisième ange, qui est d'autant plus suivi par le quatrième ange qui vient enfler ce troisième ange, ce message du troisième ange, en un grand cri. Ces choses-là, la réelle compréhension de ces choses-là, devrait occuper tout notre esprit, devrait solliciter toute notre intelligence, devrait amener corps, âme et esprit dans une pratique intelligente de la vérité. Et donc, cette parole que nous venons de relire aujourd'hui, cette déclaration de l'esprit de prophétie, c'est la pierre angulaire des trois anges, frères et sœurs. Le troisième ange sépare, il moissonne et prépare au ramassage. Il sépare le blé, froment, de l'ivraie. Et il fait cela depuis 1848. Parce que c'est en 1848 que les premiers observateurs du sabbat, parmi les adventistes du septième jour, ont vu le jour. Avant cela, il y avait une courte période pendant laquelle les vrais fidèles ont continué à sonder la parole de Dieu. Et fur et à mesure, il y a une personne, je ne me souviens plus de son nom, c'était une sœur en Christ qui a présenté cela. Et ensuite, Joseph Bates, lui, s'est directement saisi de ce message du troisième ange sur les commandements de Dieu, le sanctuaire céleste ouvert dans le ciel. Et à partir de là, le troisième ange faisait son œuvre, accomplissait son œuvre redoutable et solennelle. Cette œuvre-là même qui devrait aujourd'hui accaparer toute notre attention et retenir et occuper tout notre esprit. Et ceci, frères et sœurs, que je suis en train de commencer à vous partager dans une brève ébauche, ceci n'est pas du légalisme froid. Cette activité est comprise dans l'amour ineffable de Dieu. C'est compris, c'est inséparable, inséparable. De la même manière que la loi et l'évangile ne peuvent être prêchés, devraient être prêchés séparément. Parce que faire cela, ce n'est pas représenter le réel caractère de Dieu. Et relisons maintenant notre lecture biblique. Amos chapitre 9, versets 8 à 9, alors que nous sommes en train d'essayer de saisir intelligemment cette œuvre du troisième ange dans laquelle nous sommes inévitablement impliqués. Amos chapitre 9, versets 8 à 9. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous révèle comme élément sur la séparation que Dieu est en train d'opérer depuis 1844 et 48 entre le blé et l'ivraie? Qu'est-ce que Dieu dit davantage, en plus que ce que nous avions vu la semaine dernière sur Matthieu chapitre 13? Parce que nous nous sommes attardés sur cela, mais que dit Dieu de plus? Amos chapitre 9, verset 8, nous lisons. Voici. Les yeux du Seigneur l'Éternel sont sur ce royaume pécheur, et je le détruirai de dessus la face de la terre. Cependant, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. car voici je vais donner mes ordres et je secourrai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme le blé est secoué dans le crible sans qu'il en tombe un grain à terre. » Qu'est-ce qui nous est donné ici comme parallèle de cette activité entre le blé et l'ivraie, dans laquelle Dieu est en train de séparer, le troisième ange est en train de séparer? Dieu est en train de regarder, il parle ici d'Israël, il parle ici d'Israël et il dit « Je détruirai ce royaume pécheur. » Pourtant, c'était originellement le royaume qu'il avait lui-même instauré, quand bien même il aurait préféré être leur roi, mais c'est une autre histoire. Mais il dit maintenant, c'en est arrivé à un point qu'il n'y a que de l'ivraie. Il n'y a que de l'ivraie, le champ est rempli d'ivraie, il va falloir tout détruire. Il va falloir tout faucher simplement, comme Jésus a dit aux disciples, dans mon champ, il y a aussi du blé. Et donc, n'arrachez pas tout parce que vous allez aussi arracher le blé. Vous attendez jusqu'à la fin de la moisson. Mais nous avons vu que la moisson a commencé en 1844, donc maintenant tout est précipité dans notre intelligence. Tout a commencé bien avant que nous en ayons une compréhension juste. Mais maintenant que nous en venons à une juste compréhension, tout est précipité dans notre intelligence. Ces choses-là sont là et se poursuivent avant que vous étiez nés, frères et sœurs. Mais maintenant que vous comprenez, tout se précipite. Comme l'esprit de prophétie a dit, il viendra un moment où ceux qui viennent au message, qui n'ont pas fait l'expérience que les pionniers ont faite, devront désapprendre, pour dire littéralement ce qui est écrit en anglais, et réapprendre. Et ils auront à apprendre ces choses que les pionniers ont eu des années pour apprendre. Les nouveaux venus n'auront que des mois pour apprendre et comprendre et mettre en pratique. Et donc Dieu dit, voilà ce que je vais faire, je le détruirai ce royaume pécheur de dessus la face de la terre. Nous allons y revenir dans Matthieu chapitre 13, c'est exactement ce que Jésus a dit. Vous voyez qu'il n'y a aucune interprétation illogique ici. Tout est bien organisé, bien relié, bibliquement, de telle manière que chaque témoin rend témoignage de son compagnon, comme la parole de Dieu l'exprime. Cependant, dit-il, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Pourquoi ? Parce qu'il y a du blé. Il y a du blé. Le champ est rempli de mauvaises herbes, mais il y a quand même du blé. Et qu'est-ce que Dieu se propose de faire ? Qu'est-ce que Dieu dit qu'il fera au sujet de ce blé qui est dans son champ et qu'il désire tout de même prendre, quoique bien même il est en si petit nombre ? Lisez-le avec moi encore au verset 9. Car voici, je vais donner mes ordres et je secourrai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme le blé est secoué dans le crible sans qu'il en tombe un grain à terre. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Il secoue les nations. Parce que son peuple est parmi toutes les nations. C'est une preuve que là, ici, Dieu ne parle pas de l'Israël littéral, parce que si c'était le cas, ça ne ferait aucun sens. Il parle ici de l'Israël spirituel, l'Israël moderne, qui, selon ses propres dires, est encore une fois un royaume pécheur, comme l'était l'Israël des 10 tribus. Et par la suite, l'Israël de Juda aussi, à Jérusalem, qui aussi s'est montré infidèle. Il dit, « Je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations comme le blé est secoué dans le crible. » Mais il ne laissera rien tomber de bon. Il ne laissera pas tomber un seul grain à terre. Par contre, l'ivraie, il va tout détruire. Allez-y de nouveau avec moi dans Matthieu chapitre 13 pour que nous nous remettions en mémoire ces paroles du Seigneur Jésus vis-à-vis de ce sujet du blé et de l'ivraie. Dans Matthieu chapitre 13, Nous nous rappelons de ce qui était échangé entre les disciples et Jésus, et nous venons maintenant au verset 28, et il leur dit, c'est un ennemi qui a fait cela, qui a semé cette ivraie. Et les serviteurs lui répondirent, veux-tu donc que nous allions la cueillir? Et il dit, non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous n'arrachiez le froment en même temps. Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, cueillez premièrement l'ivraie et liez-la en faisceau pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier. Et si vous allez maintenant au verset 39, l'ennemi qui l'a semé, c'est ivrai, c'est le diable, la moisson c'est la fin du monde et les moissonneurs sont les anges. Comme donc on amasse l'ivraie et qu'on la brûle dans le feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui ôteront de son royaume tous les scandales et ceux qui feront l'iniquité. Avez-vous entendu le mot royaume ici? Il ôtera de ce royaume qui est maintenant le royaume pécheur tous les scandales et ceux qui feront l'iniquité. Comment fera-t-il cela? C'est très intéressant parce que Dieu ici est en train de donner deux perspectives sur la chose. Ce sont des illustrations qui jamais ne peuvent être utilisées pour contenir toute la réalité concrète des réalités que ces illustrations sont censées illustrer. Vous comprenez? Dieu enverra, le Fils de l'homme enverra ses anges qui ôteront de son royaume tous les scandales et ceux qui feront l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors, notez bien, 43, alors les justes luiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre. Entendent. Qu'est-ce que Dieu fera dans cette œuvre de séparation qui est accomplie par le troisième ange pour séparer le blé de l'ivraie? Il est écrit ici que les anges ôteront de son royaume tous les scandales et ceux qui feront l'iniquité. Ils les ôteront et les jetteront dans la fournaise ardente. Au verset 30, il est dit que l'ivraie serait premièrement cueillie et liée en faisceau pour la brûler, mais que le froment serait assemblé dans son grenier. Donc vous voyez, il y a des choses qui sont mises là, l'ivraie est mise d'un côté, le froment est mis de l'autre côté. Et cela, non pas dans un moment distant et lointain, mais à partir de 1848. Parce que nous avons vu que c'était le commencement de la moisson. Et j'aimerais attirer votre attention ici dans Amos chapitre 9 encore, au verset 13. Un élément très important parce que quand vous êtes ici en train d'essayer de comprendre les illustrations que Dieu donne vis-à-vis de ces choses qui sont totalement réelles, eh bien nous avons besoin de comprendre qu'il y a un moment où l'illustration trouve une limite de telle sorte que Dieu déclare les paroles suivantes dans Amos chapitre 9 verset 13. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule les raisins, celui qui répand la semence, et les montagnes seront découlantes de moût, et toutes les collines en ruisselleront. Dieu est en train ici de vous dire, de nous dire, les illustrations, ça a sa limite. Parce que la réalité des derniers jours et dépasse par milliers ce qu'une illustration pourrait expliquer. L'illustration peut donner un aspect de la chose, mais ne peut pas décrire et représenter toute la chose. Et il explique cela en disant que les jours viennent, ce moment-là qui nous est donné dans, au verset 8 et 9, dans lequel nous vivons, parce que nous avons vu la dernière fois dans Testimonies de Ministers à la page 234, paragraphe 2, que le temps du jugement est le moment où Dieu rassemble les siens du milieu de l'ivraie. Nous avons lu cela. Je le lirai après encore. Le temps du jugement est ce moment de la moisson où Dieu fait ce qu'il avait déclaré qu'il ferait dans Matthieu chapitre 13, au sujet de la cueillette de l'ivraie et le rassemblement du froment. Le temps du jugement est ce moment, frères et sœurs, où cette moisson est opérée. Mais le fait est que pendant que la moisson a lieu depuis 1844 et 1848, eh bien, il dit, les jours viennent où le laboureur, donc celui qui travaille la terre, suivra de près le moissonneur. Et celui qui foule les raisins, qui est en train de préparer la récolte pour le jus de raisin, donc tout a été récolté, il suivra de près celui qui répand la semence. Donc il y a une superposition dans la fin des jours de la personne qui moissonne par la personne qui laboure, de telle sorte que pendant que les anges, les trois anges d'Apocalypse chapitre 14 et 18 par la suite, pendant que les trois anges d'Apocalypse chapitre 14 sont en train d'accomplir, de progresser, de débuter au début dans cette moisson finale, cette fin du monde, pendant que cela c'est en train de s'accomplir, de progresser, eh bien, il y a aussi des personnes qui sont en train de travailler la terre, qui sont en train de travailler le champ de Dieu, qui sont en train de semer la semence de la parole de Dieu en vue d'une récolte future. Vous comprenez? Dieu est en train de récolter le fruit de nombreuses années de préparation des cœurs avant le début du temps du jugement investigatif, le 22 octobre 1844. Il est en train de récolter cela avec le troisième ange de personnes qui avaient été travaillées, qui avaient été labourées, qui avaient été semées, qui avaient été arrosées, qui ont grandi, qui ont cru du verbe croître dans le Seigneur Jésus et dans sa vérité et qui sont arrivés à un moment où ils étaient devenus mûrs. Et donc le troisième ange, à partir de 1848, a commencé conjointement avec les deux anges précédents, car ils ne se séparent jamais, a commencé à les moissonner, ces âmes-là. Mais, pendant cette période, cette longue période de la moisson, à partir de 1848 jusqu'à la fin des temps, le retour de Jésus, pendant cette période, il y a une superposition de la moisson et du labour et des semailles. Vous comprenez? Et c'est pour cela que les esprits sont confus. Parce que nous croyons qu'une simple illustration peut décrire toute la chose, alors que la chose dépasse tout notre entendement. Et ne peut être comprise qu'à travers les lunettes de des paroles écrites noir sur blanc de la parole de Dieu. Les jours viennent où le laboureur suivra de près le moissonneur et celui qui foule les raisins, celui qui répand la semence. Tout est en train de s'entrecroiser. Et l'esprit de prophétie nous dit que dans le ciel, pendant cette période du jugement investigatif et de la purification du sanctuaire, les anges courent, droite et gauche. Ils courent, ils descendent, ils remontent. Ils descendent, ils remontent, droite et gauche, ils vont au Père, ils vont au croyant, ils vont au Fils. Tout est en agitation, parce qu'ils se préparent à la fin de toute chose, et qu'ils sont en train d'aider le peuple de Dieu à parvenir à cette purification totale de leurs péchés, et à la purification totale du sanctuaire, et à une préparation complète pour la fin du temps de grâce. Nous sommes en train ici, frères et sœurs, d'avoir un élargissement de notre entendement vis-à-vis de l'activité du criblage. C'est un autre mot que la parole de Dieu nous donne pour définir et nous expliquer cette activité de la séparation du blé avec l'ivraie et de l'ivraie avec le blé. Et j'aimerais ici lire un peu, ce passage est un peu long, mais il faut quand même que nous le lisions un peu parce que c'est un des passages de l'esprit de prophétie qui est inévitable lorsque nous voulons comprendre cette activité du criblage. Il se trouve dans Premiers Écrits, à la page 269, paragraphe 1, et cela va jusqu'à la page 271, paragraphe 2. Donc si je ne lis pas tout, j'attire votre attention vers ces choses. Cela sera disponible dans la description. Je lis. Écoutez bien, c'est une vision que le Seigneur a donnée par l'esprit de prophétie tôt dans l'expérience du peuple de Dieu, mais qui atteint jusqu'à la fin, jusqu'au temps de détresse et jusqu'à la venue, au retour de Jésus sur les nuées. Donc, cette déclaration est une description très condensée, tout en étant à la fois très, très détaillée sur l'expérience interne de ceux qui traverseront cette séparation du blé avec l'ivraie pendant ce temps du jugement. Je lis, Premiers Écrits, page 269. J'ai vu quelques croyants qui, avec une grande foi et des cris angoissés, plaidaient avec Dieu. Leur visage était pâle, révélant leur profonde anxiété et leur lutte intérieure. Ils manifestaient une grande ferveur et une grande fermeté, de grosses gouttes de sueur perlaient à leur front. De temps en temps, sentant l'approbation de Dieu, ils étaient rayonnants. Mais bientôt, ils retombaient dans le même état de ferveur, d'anxiété et de gravité. L'esprit de prophétie ici, la servante du Seigneur ici a vu en vision le peuple de Dieu. Elle a vu en vision l'expérience vivante du blé. Et comme vous allez le voir, elle a vu l'expérience vivante que ferait le peuple de Dieu à travers le criblage. Je poursuis. Et j'attire votre attention. Je vous invite à relire ces lignes à la lumière de ce que je suis en train de vous dire. Les mauvais anges s'empressaient autour d'eux, les plongeant dans les ténèbres pour leur cacher Jésus, afin que, leurs yeux étant attirés par les ténèbres, ils puissent les amener à perdre confiance en Dieu et à murmurer contre lui. Leur seule sécurité était de garder leur regard dirigé vers le ciel. Les anges de Dieu avaient la garde de son peuple, et lorsque l'atmosphère empoisonnée des mauvais anges entourait ceux qui étaient dans l'angoisse, ils battaient constamment des ailes pour dissiper les épaisses ténèbres. Que faisaient-ils? Que faisaient les anges? Ils battaient des ailes. Que faisaient-ils? Ils s'efforçaient de dissiper dans l'esprit des croyants les ténèbres par lesquels le diable et les mauvais anges cherchaient à les entourer. Nous sommes dans la description du peuple de Dieu et de l'expérience intense que fait ce peuple depuis le début du troisième ange et dans le message du troisième ange. C'est important que nous parvenions à distinguer cela, frères et sœurs, pour que nous sachions à quoi nous attendre et que nous sachions ce que nous manquons si nous n'avons pas cela. Que peut-être, alors, c'était parce que nous n'étions pas vraiment entrés dans la foi du message du troisième ange. Je laisse la question en suspens. Je poursuis. Les croyants continuant à supplier le Seigneur, parfois un rayon de lumière provenant de Jésus venait jusqu'à eux pour les encourager. Leur visage en était illuminé. J'ai vu que quelques-uns d'entre eux ne participaient pas à cette œuvre de supplication agonisante. C'est un terme très important. Il n'est pas dans la version originale du français. Certains, a-t-elle dit, quelques-uns d'entre eux ne participaient pas à cette œuvre de supplication agonisante, littéralement de plaidoirie, d'agonie et de plaidoirie avec Dieu. Est-ce que vous agonisez quand vous priez à Dieu? Ce peuple qui nous est décrit dans l'esprit de prophétie agonisait, était agonisant dans sa supplication, ses supplications constantes à Dieu. Mais certains parmi ce corps ne participaient pas à cette œuvre de supplication et d'agonie agonisante. Que faisaient-ils? Quelle était leur attitude? Ils semblaient indifférents à ce qui se passait autour d'eux. Ils ne résistaient pas aux ténèbres qui les entouraient et celles-ci les emprisonnait. Nous avons ici une première ébauche qui nous laisse entendre, qui nous laisse discerner la première lueur d'un criblage. Vous comprenez? C'est comme ça que cela commence. Lorsque nous ne résistons pas aux ténèbres. Quelles ténèbres? Comme c'est écrit dans Ésaïe chapitre 60. Lève-toi, que le Seigneur brille, le Seigneur s'est levé sur toi, brille pour le Seigneur, parce que, j'attire votre attention vers ces passages très très importants pour la fin des jours. Ésaïe chapitre 60 verset 1. Lève-toi, sois illuminé, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Pourquoi dois-tu te lever? Pourquoi la lumière de l'Éternel s'est levée sur toi? Quel est le contexte? Verset 2. Car voici, les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité couvrira les peuples. Mais sur toi se lèvera l'Éternel et sur toi paraîtra sa gloire. Et vous savez de quel moment il est question ici, parce que au verset 8, il est écrit « Qui sont ceux-là volant comme des nuages, comme des pigeons vers leur colombier ?» Il parle inévitablement et indéniablement des avions de ligne, ces gigantesques avions qui descendent se poser sur les pistes d'atterrissage et rentrer dans leurs aéroports respectifs. Donc pendant ce moment, ces derniers moments du 20e et du 21e siècle, c'est très précis là, frères et sœurs, eh bien, le Seigneur veut se lever sur son peuple, briller en lui, il veut faire briller sur son peuple la lueur de sa face, et les ténèbres couvrent la terre, et quelle terre? L'obscurité couvre les peuples. Mais ici, vous avez un peuple, vous avez des personnes qui ne résistent pas aux ténèbres, qui ne résistent pas aux influences du monde dans leur vie. Et que se passe-t-il pour ces personnes-là? Les ténèbres les entourent et les emprisonnent. C'est ce que la servante voyait en vision. Alors les anges de Dieu les abandonnaient à leur sort et allaient secourir ceux qui priaient. Est-ce que l'esprit de prophétie vient de nous donner une description d'une activité qui a lieu au sein de l'Église? C'est indéniable. C'est indéniable parce que vous voyez précisément que il s'agit de personnes qui font partie d'un même corps. Je le lis ici, au premier, au deuxième paragraphe plutôt. Non, c'est verset, le paragraphe 3. 270, paragraphe 1. J'ai vu que quelques-uns d'entre ces personnes qui suppliaient le Seigneur continuellement, quelques-uns d'entre eux ne participaient pas à cette œuvre de supplication. Ils semblaient indifférents à ce qui se passait autour d'eux. Ils ne résistaient pas aux ténèbres qui les entouraient et celles-ci les emprisonnaient comme une épaisse nuée. Et que firent les anges dans la vision vis-à-vis de ces personnes-là, ces croyants, ces chrétiens, ces adventistes? Que firent les anges? Alors les anges de Dieu les abandonnaient à leur sort et allaient secourir ceux qui priaient. Est-ce qu'il s'agit ici d'un criblage? Vous voyez comment cela se passe? Le Seigneur est en train de secouer. Il est en train de secouer et cela fait. Il est en train, en parallèle à cela, d'une autre description, il est en train d'augmenter la chaleur dans la fournaise de l'épreuve de notre foi. Mais que se passe-t-il quand il augmente la chaleur comme cela? Quand il permet aux anges de presser, d'influencer plus fortement, plus intensément les croyants des ténèbres du diable? Que se passe-t-il lorsqu'il fait cela, lorsqu'il permet cela? Eh bien, il y en a qui, au lieu de résister à ce criblage, au lieu de rester avec Dieu, au lieu de s'agripper à Dieu, ils lâchent prise. Ils lâchent prise et que leur arrive-t-il? Ils montrent qu'ils sont, non pas du blé, mais de l'ivraie, et donc ils sont sortis. Dans cette illustration, ils sont sortis. Et oui, parce que le grain est plus gros et le crible qui est comme un tamis ne laisse pas passer le grain mais laisse passer l'ivraie parce que l'ivraie n'est pas de la même grandeur, n'est pas de la même grosseur, n'est pas de la même épaisseur et donc elle passe à travers. Et c'est ce qui nous est déclaré ici de manière vraiment concrète et c'est pour ça que j'ai intitulé notre méditation « Expérience vivante du criblage ». Il s'agit ici d'une expérience vivante que ceux qui n'ont pas cette expérience vivante seront sortis. Oui, ils seront sortis. Je lis, « Alors les anges de Dieu les abandonnaient à leur sort et allaient secourir ceux qui priaient. » S'ils sont abandonnés à leur sort, qu'est-ce que c'est? Ils sont mis avec l'ivraie, prêts à brûler. Les anges ne s'occupent plus d'eux. Les anges les mettent pour le feu, de côté. Mais ils existent encore sur la terre. Ils vivent encore sur la terre. Simplement, les anges ne s'occupent plus d'eux. Pourquoi? Est-ce que Dieu est arbitraire? Non, ils n'ont simplement pas voulu résister aux ténèbres. Ils se sont laissés aller avec le courant. Et donc Dieu a dit, les anges se focalisent sur ceux qui s'agrippent, sur ceux qui restent tout le long avec le Seigneur Jésus et qui demeurent fidèles au message, qui s'agrippent à la vérité, qui demeurent fermement ancrés sur la plateforme. Voilà ce que les anges allèrent aider. Je poursuis. J'ai vu les anges de Dieu se hâter auprès de ceux qui luttaient de toute leur force pour résister aux mauvais anges et qui s'encourageaient eux-mêmes en implorant le Seigneur avec persévérance. N'est-ce pas complètement relié à tout ce que nous avions vu sur la prière humble et persévérante? Toutes ces choses sont liées. Voilà le peuple qui est le blé. Les anges allèrent aider ceux qui luttaient de toute leur force pour résister aux mauvais anges. Les anges allèrent aider ceux qui cédaient eux-mêmes, ceux qui coopéraient avec Dieu. On m'a souvent dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Mais je suis désolé. Il faut prendre ces choses à la lettre et aller jusqu'au bout de ce raisonnement. Et si vous allez au bout de ce raisonnement, vous allez briser sur le roc qui est Jésus-Christ et donner votre vie au Seigneur pour obéir à ce que le Seigneur a dit et pour garder ses commandements. À moins que vous fassiez cela, ça ne veut absolument rien dire. Et donc, les anges allèrent aider ceux qui s'encourageaient eux-mêmes, comment? En implorant le Seigneur avec persévérance. Réfléchissez à cela avec moi, frères et sœurs. Comment est-ce que vous vous encouragez vous-même? Est-ce que vous allez perdre votre temps sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous allez surfer sur Internet de long en large, sans interruption, pendant des heures durant? Sans en obtenir aucune satisfaction à la fin, mais continuant cette pratique pour vous encourager vous-même parce que vous êtes découragé à cause de cette épaisse nuée de ténèbres par laquelle les anges désirent vous envelopper. Comment allez-vous vous encourager? Allez-vous faire du shopping? Allez-vous pratiquer le commérage? Comment allez-vous vous encourager? Les anges allèrent aider ceux qui s'encourageaient eux-mêmes en implorant le Seigneur avec persévérance. Voilà une qualification du vrai blé, de ceux que Dieu est en train de garder, de ceux qui ne sortiront pas du crible. Ce sont les personnes qui, lorsqu'elles sont découragées, déversent leur découragement en Dieu et qu'elles s'encouragent eux-mêmes en implorant le Seigneur avec persévérance. C'est comme ça que Jésus faisait. Lorsque Jésus était découragé, Jésus se liait au Seigneur par une ligne de prière qui faisait qu'il était chargé de la puissance du Saint-Esprit comme par un courant électrique. Je suis en train de paraphraser une déclaration de l'Esprit de prophétie qui nous dit que c'était l'expérience que Jésus faisait et qui nous invite à faire et à avoir. Ceux qui s'encourageaient eux-mêmes en implorant le Seigneur avec persévérance. Encourageons-nous ainsi, frères et sœurs, avec persévérance. Ne pas perdre du temps sur YouTube ou Facebook, il faut le dire. Et si vous n'êtes pas trop technologie, vous trouverez certainement une chose qui vous fait perdre du temps et qui est contraire à cette déclaration inspirée qui guide l'activité de notre esprit. Lorsque nous sommes découragés, s'encourager en persévérant dans la prière et en implorant le Seigneur. Mais les anges du ciel ne s'occupaient pas de ceux qui ne faisaient aucun effort pour s'aider eux-mêmes, et je les perdis de vue. Je l'ai perdu de vue, dit-elle. Parce que dans la vision, il s'agissait de lumière et de ténèbres, et de ceux qui priaient le Seigneur et de ceux qui ne résistaient pas aux ténèbres. Et elle dit que ceux qui ne résistaient pas furent enveloppés de ténèbres et elle les perdit de vue. Nous sommes en train d'assister ici, à travers les déclarations de l'Esprit de prophétie, à l'expérience vivante et crucial du criblage. Et si vous n'avez pas fait cette expérience, que vous ne connaissez pas cette expérience, alors il faut encore entrer dans la foi du message du troisième ange, tel qu'il est réellement. En vous souvenant des temps et des lieux, lorsque vous lisez l'esprit de prophétie, autrement votre religion est une imagination. Et vous êtes séparé de la réelle compréhension, et donc vous êtes dans l'erreur. Et si je suis dans l'erreur, alors je ne peux pas être sanctifié par la vérité. Parce que s'il y a une seule once d'erreur, votre vérité est un poison. Et ce n'est pas le message du troisième ange. Mais l'esprit de prophétie nous a dit que le message tel qu'il est vraiment devrait retenir toute notre attention, occuper tout notre esprit. Et maintenant, la question nous vient. La question au sujet de ce qu'elle a vu. Et elle dit, « Je demandais ce que signifiait le criblage que j'avais vu. On me répondit qu'il était causé par le conseil du témoin véritable aux Laodicéens. Ce conseil aura son effet sur le cœur de celui qui le reçoit. Il l'amènera à exalter la vérité. Quelques-uns ne l'accepteront pas, ils le combattront, et c'est ce qui produira le criblage parmi le peuple de Dieu. » Qu'est-ce qui provoque le criblage? Le criblage commence très tôt, mais qu'est-ce qui le provoque réellement, intensément? C'est que quelques-uns n'acceptent pas le conseil du témoin véritable aux Laodicéens. Et nous avons vu, j'attire votre attention vers la méditation que nous avons eue, pas le sabbat précédent, mais les deux sabbats d'avant, sur la pluie de l'arrière-saison et la pluie de l'arrière-saison depuis 1888. Où nous avons vu, nous y reviendrons juste après, que certains ont refusé le message et se sont opposés au messager. Et qu'est-ce que cela produirait selon les premiers écrits? Cela produira le criblage parmi le peuple de Dieu. L'ange dit, « Regardez. Mon attention fut alors attirée par le groupe que j'avais vu, qui était terriblement criblé. Ceux que j'avais vus auparavant me furent montrés pleurant et priant avec angoisse. Le nombre des anges gardiens qui les entouraient avait doublé, et ils étaient armés de la tête aux pieds. Ils se déplaçaient dans un ordre parfait, comme une compagnie de soldats. Les visages des fidèles révélaient le combat terrible qu'ils avaient livré. Cependant, leurs traits marqués par l'angoisse resplendissaient maintenant de la lumière et de la gloire du ciel. Ils avaient obtenu la victoire et ils en éprouvaient une profonde gratitude et une sainte joie. Le nombre de ce groupe avait diminué. Quelques-uns avaient été éliminés par le crible et laissés le long du chemin. Les insouciants et les indifférents qui ne s'étaient pas... Je relis. Les insouciants et les indifférents qui ne s'étaient pas joints à ceux qui appréciaient suffisamment la victoire et le salut pour persévérer dans la prière n'obtinrent rien et furent laissés en arrière dans les ténèbres. Leur place était immédiatement prise par d'autres qui acceptaient la vérité et entraient dans les rangs. Les mauvais anges continuaient à les entourer, mais ils n'avaient aucun pouvoir sur eux. J'entendis ceux qui étaient revêtus de l'armure parler de la vérité avec beaucoup de puissance. Celle-ci produisait son effet. Plusieurs avaient été retenus, des femmes par leurs maris, des enfants par leurs parents. Les âmes sincères qui avaient été empêchées d'entendre la vérité l'acceptaient maintenant avec empressement. La crainte des parents avait disparu. Seule comptait pour eux la vérité. Ils avaient eu faim et soif de la vérité. Elle leur était plus chère et plus précieuse que la vie. Je demandais ce qui avait produit ce grand changement. Un ange me répondit, « c'est la pluie de l'arrière-saison, le rafraîchissement de la part du Seigneur, le grand cri du troisième ange. Est-ce que vous vous souvenez ce que nous avons vu à ce sujet par rapport à 1888? Nous avons vu que c'était le commencement du grand cri du troisième ange et que c'était aussi le commencement de la pluie de l'arrière-saison. Et donc ces choses-là, nous pouvons nous attendre à voir leur accomplissement à partir de 1888. C'est très important que nous puissions arriver à discerner cela. Parce que le fait, le simple fait que l'ange a clairement annoncé en réponse que ce qui avait produit ce grand changement qui est décrit juste avant était, c'était la pluie de l'arrière-saison, le rafraîchissement de la part du Seigneur, le grand cri du troisième ange, ce simple fait-là devrait nous amener à réfléchir sur toute notre compréhension des prophéties jusqu'alors, que nous avons jusqu'alors accumulées. Dans notre étude de la parole de Dieu, dans notre réception de la présentation, de la prédication des trois anges. C'est capital, frères et sœurs, que nous arrivions à discerner que ces choses nous sont annoncées comme des résultats du début du grand cri. Et donc, ils peuvent avoir lieu et ils auront lieu inévitablement et incontestablement dans la phase finale du grand cri et dans ce moment où le peuple de Dieu sera amené devant les tribunaux. Mais cela a commencé bien avant cela, bien avant que vous étiez nés. Cela a commencé. La pluie de la saison, le grand cri du troisième ange, le rafraîchissement de la part du Seigneur. Parce que vous avez vu que quelques-uns, elle disait, le nombre de ce groupe avait diminué. Dans la prophétie des premiers écrits, il nous était annoncé que ce peuple-là serait criblé. Et que elle a vu avec une distinction de temps que après que l'ange ait ramené son attention vers ce groupe avait diminué. Quelques-uns avaient été éliminés par le crible et laissés le long du chemin. Par la grâce de Dieu, frères et sœurs, nous examinerons davantage ce sujet parce qu'il peut être étudié de manière historique. Et en effet, il l'a été pendant de nombreuses décennies. Et si nous l'étudions ainsi, frères et sœurs, alors nous serons libérés de nombreuses chaînes et de nombreux joues qui ne sont pas nécessaires, mais par lesquels le diable cherche à nous enchaîner pour nous empêcher de comprendre la véritable vérité et que nous soyons réellement propulsés et ancrés dans le vrai message de la foi, du message du troisième ange. Et j'aimerais attirer de plus maintenant votre attention pendant qu'il nous reste un peu de temps, vers les paroles de Testimonies for the Church, à la, volume 5, à la page 81 et au paragraphe 1. Ceci n'existe pas en français. Je vous l'ai traduit. Je lis. Nous sommes encore ici en train de rassembler des éléments importants que la parole de Dieu et l'esprit de prophétie, qui est aussi le témoignage de Jésus, nous donnent au sujet de cette séparation du blé d'avec l'ivraie. Et je lis ici. Le temps, ceci était écrit en 1882. Écoutez bien, frères et sœurs. Le temps n'est pas éloigné où l'épreuve se présentera à chaque âme. On nous incitera à recevoir la marque de la bête, ceux qui ont cédé peu à peu aux exigences du monde et qui se sont conformés à ses coutumes n'auront pas de difficulté à se soumettre aux autorités plutôt que de s'exposer aux moqueries, aux insultes, aux menaces d'emprisonnement et de mort. Le combat se joue entre les commandements de Dieu et les commandements des hommes. En ce temps-là, dans l'Église, l'or sera séparé des scories. La vraie piété se distinguera nettement de son apparence et ses paillettes. Bien des étoiles que nous avions admirées pour leur clarté s'effaceront alors dans les ténèbres. Des nuages de balles emportés par le vent s'élèveront même d'endroits où nous ne voyions pourtant que des réserves de pur blé. Tous ceux qui portent les ornements du sanctuaire, mais qui ne sont pas revêtus de la justice de Christ, paraîtront alors dans la honte de leur nudité. Vous voyez toutes ces allusions bibliques ici ? La dernière phrase vous montre clairement que ces personnes-là ici, qui semblaient comme des étoiles brillantes par leur clarté, seront à ce moment-là, à ce moment fatidique de cette conséquence du criblage, paraîtront alors dans la honte de leur nudité, à savoir, qui est une allusion directe à Apocalypse chapitre 3, verset 16, où Jésus dit « Je te conseille d'acheter de moi des vêtements afin que tu sois vêtu et pour couvrir. » Attendez, pas envie de dire de bêtises. Apocalypse chapitre 3, verset 18, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. » pour devenir riche, et des vêtements blancs pour être vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point. » Qu'est-ce que c'est cela ? C'est le conseil du témoin fidèle et véritable au Laodicéen. Et nous avons vu que ceux qui s'opposent à cela seront ceux qui provoqueront ce crible, et nous lisons ici que ces personnes-là, qui s'avère ne pas être de l'or, mais des scories, paraîtront alors dans la honte de leur nudité, à savoir ils ont rejeté le conseil de Jésus à Laodicéen, à Laodicée et au Laodicéen, ce qui est la même chose. Et ils ont provoqué le criblage par leur opposition et ils sont sortis. Mais notez bien ici, frères et sœurs, notez bien. Ce que je vous ai dit la dernière fois, dans Amos chapitre 9, verset 13, que dans les illustrations, le Seigneur nous a fait comprendre qu'il y a une limite. Et là où la limite, ou là où l'illustration trouve sa limite, Dieu pourvoit une déclaration claire pour combler le vide. Et écoutez la déclaration du Seigneur. Écoutez bien, frères et sœurs. La traduction est très mot à mot, donc on ne peut pas se tromper. Je lis. En ce temps-là, le temps où l'épreuve se présentera à chaque âme, parce qu'elle disait au début de la citation, le temps n'est pas éloigné en 1882, où l'épreuve se présentera à chaque âme. 1888, ensuite, le début du grand cri du troisième ange, la pluie de l'arrière-saison, le temps n'est pas éloigné où l'épreuve se présentera à chaque âme, disait-elle, en son temps, à son époque. Elle disait, elle parlait de la marque de la bête, et ceux qui se sont peu à peu conformés aux exigences du monde et à ses coutumes, et qui n'auront pas de difficulté à se soumettre aux autorités, plutôt que de s'exposer aux moqueries, donc nous savons que cela se réfère bien entendu aux lois du dimanche, au conflit entre les commandements de Dieu et les commandements des hommes, qui est encore à venir, clairement. Mais l'épreuve pour eux n'était pas uniquement future, elle n'était pas éloignée. Elle n'était pas éloignée. En ce temps-là, nous lisons, En ce temps-là, dans l'Église, l'or sera séparé des scories. Est-ce qu'il est écrit que les scories seront séparées de l'or? Réfléchissez bien, frères et sœurs. L'or sera séparé des scories. Le français est exactement pareil que l'anglais. Il n'est pas écrit que les scories seront séparées de l'or. Donc, la question que je pose maintenant, frères et sœurs, qui est vraiment très importante, c'est à la lumière de cette déclaration que l'esprit de prophétie nous donne pour une raison bien spécifique, est-ce que nous pouvons nous attendre à ce que les scories sortent de l'Église, de cette organisation qui était à cette époque l'Église adventiste du septième jour? Est-ce que nous pouvions, selon cette expression de 1882, nous attendre à ce que les scories sortent pour que l'Église ne forme qu'un seul tout composé seulement de pur blé? Ou pouvons-nous nous attendre, selon cette déclaration, à ce que l'or soit séparé et que les scories restent et qu'il se fasse un foyer, un noyau de scories et que l'or soit mis à part par le Seigneur, par ses moissonneurs. Vous voyez? Et pour vous montrer que ce n'est pas une déclaration isolée, j'aimerais maintenant lire une autre pour ajouter à la force de celle-ci, une qui se trouve dans Testimonies to Ministers and Gospel Workers à la page 409 et au paragraphe 3. Où il est écrit. Ceci a été écrit en 1898. De nombreuses personnes monteront à nos chairs avec le flambeau de la fausse prophétie dans leurs mains, allumé lui-même par la torche infernale de Satan. Si les doutes et l'incrédulité sont nourris, alors les pasteurs fidèles seront ôtés aux gens qui croient en savoir tant. Christ a dit: « Oh, si tu eusses connu toi aussi, du moins en cette tienne journée, les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. » Cachées à tes yeux? Tu n'as pas voulu du collier? Tu as rejeté le conseil au témoin fidèle et véritable? Le conseil du témoin fidèle et véritable au Laodicéen? Tu es donc maintenant resté aveugle? Les choses qui t'appartenaient sont cachées à tes yeux. Et qu'est-ce qui se passe? Si les doutes et l'incrédulité sont nourris, alors les pasteurs fidèles seront ôtés aux gens qui croient en savoir tant. Est-ce que c'est le même langage que nous venons de lire dans Testimonies to the Church, for the Church, volume 5, page 81, paragraphe 1. L'or, en ce temps-là, ce temps fatidique, qui n'est pas uniquement futur, mais qui a commencé à partir de 1888, en ce temps-là, l'or sera séparé des scories dans l'Église. Et ici, nous lisons que si les doutes et l'incrédulité sont nourris, alors les pasteurs fidèles seront ôté. L'or sera ôté. Les étoiles dans la main du Seigneur, parce que c'est ce que c'est, comme nous le lisons dans Apocalypse chapitre 1, je crois, seront ôtées. Et qu'est-ce que Dieu va faire avec cela après? Quand il a ôté cela, il prend le chandelier aussi. Il prend l'or, il prend les étoiles, il prend le chandelier. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est ta maison. Ta maison est en ruine. Comme Jésus disait, ta maison est laissée désolé. Comme c'est écrit en anglais, c'est « Your house is left desolate ». Il n'y a plus l'Esprit de Dieu. Ce n'est plus ma maison. Vous comprenez ce qui se passe dans le processus du criblage? Voilà, frères et sœurs, je pense que c'est important que nous nous arrêtions ici pour aujourd'hui et que nous concluons sur cette note. D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit que j'allais lire à la page dans Testimonies to Ministers, à la page 234 et au paragraphe 2. Le temps du jugement est une période des plus solennelles lorsque le Seigneur rassemble les siens du milieu de l'ivraie. Pendant ce temps du jugement, il rassemble les siens du milieu de l'ivraie, il sort l'or, et si les doutes et l'incrédulité sont nourris par ceux qui ne veulent pas recevoir le conseil du témoin fidèle et véritable au Laodicéen, alors il prendra aussi les étoiles. Les pasteurs fidèles, les ministres fidèles, il les prendra. Et qu'est-ce qu'il laissera dedans? Nous avons lu, de nombreuses personnes monteront à nos chairs avec le flambeau de la fausse prophétie dans leurs mains. Donc si le peuple continue à nourrir l'incrédulité et les doutes, vis-à-vis du message de la justice de Christ, qui n'est autre que le conseil du témoin fidèle et véritable au Laodicéen, alors Dieu prendra les fidèles ministres, Dieu prendra l'or, Dieu prendra son blé, et il laissera la maison le royaume pécheur. Voilà, frères et sœurs, ce que l'esprit de prophétie nous donne de comprendre et de discerner. Et voilà comment Dieu désire accomplir quelque chose qu'il ne peut accomplir d'une autre manière, à savoir en faisant luire dans notre esprit la lumière de la prophétie, pour faire lever en nous cette étoile. Car il est écrit ici, dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 19, nous avons aussi la parole prophétique, comme c'est écrit en anglais, qui est très ferme, à laquelle vous faites bien de vous attacher comme à une lampe qui brillait dans un lieu sombre jusqu'à ce que le jour resplendît et que l'étoile du matin se leva dans vos cœurs. C'est l'expérience que j'ai faite, frères et sœurs. Et je prie aussi que nous puissions, ensemble, à la lumière de la vérité, de la parole et du témoignage de Jésus, faire cette expérience. Que nous ne soyons plus dans les ténèbres, mais que nous marchions dans la lumière que le Seigneur nous a bien voulu nous donner. Et que nous comprenions cette expérience et ces expériences vivantes du criblage pour arriver à comprendre ce à quoi nous pouvons nous attendre et à comprendre les événements qui sont derrière nous. C'est ma prière que le Seigneur nous bénisse dans cela et que le Seigneur vous encourage et que nous puissions prendre à cœur que les choses que nous avons vécues dans le proche et le lointain passé n'était pas le fruit du hasard, mais que c'est le Seigneur qui souhaite rassembler son blé pour le grenier céleste. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.